Et le journal est présenté par Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Benoît, bonjour à toutes et à tous. Le CETA en question devant les députés français cette semaine, ce traité commercial entre l'Union européenne et le Canada est déjà entré en vigueur partiellement, mais depuis 2 ans, les griefs s'accumulent contre ce type de traité international. Nous y reviendrons depuis Bruxelles.
La Serbie pourra-t-elle un jour appartenir à l'Union européenne? C'est aussi pour parler de ce sujet que le président français Emmanuel Macron se rend en Serbie aujourd'hui, alors qu'à Paris, la célébration du 14 juillet hier a donné lieu à de nouvelles manifestations de gilets jaunes.
L'Europe qui tente de donner de la voix dans un autre dossier brûlant, celui du nucléaire iranien. Hier, les dirigeants français, anglais et allemands ont officiellement demandé un retour à la raison de Téhéran et des États-Unis. Peine perdue, a priori, nous dira Christian Chesneau.
Nous irons également en Turquie dans ce journal où les purges politiques continuent 3 ans après le coup d'État manqué contre le président turc Recep Tayyip Erdogan.
Enfin, à Gaza, c'est une petite révolution. Les déchets qui envahissent les décharges et posent des problèmes environnementaux vont enfin être enfouis grâce à la France, notamment, nous dira Étienne Monin. Mais d'abord, arrêtons-nous sur ce phénomène apparu il y a près de 50 ans sur les côtes bretonnes et qui continue de susciter l'inquiétude, les algues vertes qui sont revenues dans les côtes d'Armor cet été plus tôt que d'habitude. Plusieurs plages ont déjà été fermées. Le 6 juillet dernier, un jeune ostréiculteur de 18 ans a été retrouvé mort près de ces algues sans qu'on sache encore pour l'instant les causes exactes du décès. Ces algues vertes dégagent de l'hydrogène sulfuré, soupçonné d'avoir provoqué la mort d'hommes et d'animaux depuis plusieurs années. C'est surtout dans la baie de Saint-Brieuc que le phénomène est visible. À Cesson, par exemple, la pointe des Belles est fermée, l'eau du robinet interdite à la consommation et les algues vertes pullulent. La saison estivale est anéantie pour ceux qui possèdent notamment un petit cabanon en bois. La plage a été fermée du jour au lendemain. Le reportage sur place de Véronique Reberotte.
Des grilles en acier empêchent fermement l'accès à la plage, vasière, dangereuse, danger, gaz toxique. Les affiches sont explicites.
Bon, ça fait 42 ans que je viens ici. C'est la première fois que je vois ça. C'est affolant.
Les cabanons sur pilotis posés sur la plage sont interdits. Michel vient en vacances dans une cabane en bois qui surplombe la baie. L'odeur des algues vertes en décomposition est bien présente sur sa terrasse.
C'est vraiment une horreur pour tout le monde parce que c'est la seule plage de Saint-Brieuc qui vraiment, les gens qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas trop d'argent, qui descendent par le bus, ben, tout est bouché, quoi. Moi, pour moi, c'est l'agriculture, hein. Je suis pas contre les paysans, hein, mais bon, ça vient de là, hein, y a pas à tortiller, ça vient de là, et donc ben, il faudrait vraiment qu'ils fassent payer ces gens-là, et puis qu'il y ait quelque chose de fait pour
qu'il y ait moins de nitrates.
Ah oui. Alors, c'est démoralisant.
L'origine du problème, de trop grands rejets de nitrate dans la mer, liés à l'élevage porcin. Ces rejets qui nourrissent les algues vertes sont toujours là. Ils sont loin d'être jugulés, malgré quelques efforts, estime Sylvain Balu. Il est le responsable de suivi des marées vertes au CEVA, le centre d'études et de valorisation des algues.
Les algues vertes rendent visible une pollution qui est d'habitude invisible. Les nitrates dans l'eau ne se voient pas. Ce qu'on peut dire sur les évolutions des concentrations depuis une quinzaine d'années, on a quasiment divisé par deux les concentrations dans les cours d'eau. Cela dit, le chemin inverse, il est long parce qu'il y a une inertie qui est liée au passage par les nappes phréatiques, au passage des nitrates d'abord, enfin du lessivage des sols par tout un trajet dans le sol, puis dans la nappe phréatique. Donc on peut avoir 10, 15, 20 ans entre une action sur le bassin versant et son plein résultat sur la qualité de l'eau à l'exutoire.
Sylvain Balu décrit une situation exceptionnelle cette année, cumul de conditions hivernales et printanières, peu propice à la dispersion des algues vertes d'une année sur l'autre.
Un reportage de Véronique Reberotte. Les vacances seront-elles également gâchées pour le gouvernement? Hier, à l'occasion du 14 juillet, les gilets jaunes dont on pensait la mobilisation éteinte se sont manifestés à nouveau. Des violences ont eu lieu pendant le défilé, puis plus tard dans l'après-midi, menant à une série d'interpellations. Les Champs-Élysées ont ensuite été le théâtre d'incidents dans la soirée, à l'issue du match de l'équipe algérienne de foot pour la Coupe d'Afrique des Nations. La victoire de l'Algérie en demi-finale a donné lieu à des scènes de liesse, puis d'affrontements avec les forces de l'ordre. Mêmes incidents à Lyon, Vaux-en-Velin et Marseille. Au total, 282 personnes ont été interpellées, la grande majorité à Paris. Une cinquantaine d'élus de gauche ont signé une tribune ce dimanche dans le JDD pour demander la protection du droit à l'IVG. Selon eux, ce droit est menacé dans certains lieux et dans certains territoires. 130 centres pratiquant l'avortement ont fermé en 15 ans. 5000 femmes ont quitté la France pour pratiquer un IVG, dénoncent-ils. Ils en appellent au gouvernement. La crise des gilets jaunes, revenons-y, elle avait provoqué en décembre dernier l'annulation d'un voyage officiel d'Emmanuel Macron en Serbie, une visite qui aura finalement lieu à partir d'aujourd'hui. Alors que le président français considère la Serbie comme un partenaire essentiel dans cette région des Balkans, évidemment il sera question de l'adhésion du pays à l'Union européenne, un processus au point mort et dont le chemin est semé d'obstacles, les précisions d'Élise Delève.
Les obstacles sont tout d'abord européens. Emmanuel Macron a insisté à plusieurs reprises, pas d'élargissement tant que l'Union européenne ne s'est pas réformée. Le processus d'adhésion est hypocrite et épuisant, lâche-t-on à l'Élysée. Parallèlement, la Serbie doit elle aussi se réformer. Des progrès importants doivent être réalisés dans le domaine de l'état de droit, insiste la France, l'indépendance de la justice, la question du pluralisme des médias, aujourd'hui le journalisme critique est étouffé, la lutte contre la corruption et une véritable reconnaissance de l'opposition politique. Tous ces points seront abordés par Emmanuel Macron avec son homologue Aleksandar Vučić dans un langage de franchise et de vérité, assure l'Élysée. Le dernier obstacle qui semble actuellement insurmontable, c'est la normalisation des relations entre la Serbie et le Kosovo, préalable à tout rapprochement européen. Aujourd'hui, le dialogue est au point mort. Belgrade refuse de retourner à la table des négociations tant que Pristina maintient des taxes sur l'importation de ses produits. La perspective européenne n'est pas remise en cause, mais elle s'éloigne. On parle de 2025, trop long pour les Serbes qui se tournent de plus en plus vers la Russie.
C'est une autre question européenne qui sera traitée à partir de mercredi par les députés français, la ratification de l'accord commercial signé entre l'Europe et le Canada. Accord entré partiellement en vigueur depuis 2 ans, mais pour une application complète, ce CETA doit être ratifié par les parlements nationaux. Or, plusieurs députés ont déjà exprimé leur opposition. On se souvient de la levée de boucliers provoquée par ce CETA en 2016 et particulièrement du blocage généré par le refus de la Wallonie d'autoriser la signature. En attendant, de nombreux points de l'accord sont entrés en application. Les précisions depuis Bruxelles de Pierre Benazet.
Depuis le 21 septembre 2017, l'accord avec le Canada est entré en application pour le volet qui relève de la compétence exclusive de l'Union européenne, c'est-à-dire ce qui est géré par la Commission. C'est une distinction fondamentale parce que depuis près de 2 ans sont appliquées par exemple la levée des droits de douane ou bien les importations de bœuf canadien en Europe ou bien encore la protection des appellations d'origine pour les produits européens au Canada. La Commission européenne a même fait un premier rapport d'étape pour constater qu'un an après l'entrée en vigueur partielle, les exportations avaient déjà globalement augmenté de 7%. Le deuxième volet, en revanche, relève de la compétence des États, par exemple les questions de propriété intellectuelle, ou bien la création d'une cour d'arbitrage spéciale. C'est ce point qui avait provoqué le blocage de la Wallonie, et c'est ce point qui a finalement été validé par un avis de la Cour de justice de l'UE fin avril. Et d'ailleurs, cet avis a provoqué une reprise des ratifications dans les 16 pays sur 28, dont la France, qui n'avait pas encore ratifié. Mais pour près d'une dizaine de pays, la ratification, si elle a lieu, n'interviendra peut-être même pas cette année.
Et Pierre Benazet.
8h08 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin. La situation est toujours au point mort entre les États-Unis et l'Iran sur le dossier explosif du nucléaire iranien.
Et ça n'est pas l'appel au calme de 3 puissances européennes qui devraient calmer la situation, malgré la bonne volonté de la France, l'Allemagne et du Royaume-Uni, qui ont appelé donc hier à une désescalade dans une déclaration commune. Les 3 pays exhortent Washington et Téhéran à reprendre le dialogue pour trouver les moyens d'arrêter la montée des tensions dans le golfe Persique. Christian Chéneau.
Les appels à la désescalade de Paris, Londres et Berlin apparaissent plus incantatoires qu'opérationnels. Certes, Emmanuel Macron, qui a envoyé son conseil diplomatique à Téhéran la semaine dernière, croit toujours en une solution négociée, mais rien à ce stade ne permet d'enclencher un tel processus. Bien au contraire, les États-Unis ont promis de nouvelles sanctions contre la République islamique. Et face à Donald Trump, les 3 pays européens, signataires de l'accord de Vienne, semblent impuissants et paralysés devant l'administration américaine. Ainsi, malgré des promesses répétées, INSTEX, le mécanisme commercial entre l'Iran et l'Union européenne qui vise à contourner les sanctions américaines, n'est toujours pas opérationnel. Or, pour revenir dans les clous de l'accord nucléaire de Vienne, les Iraniens attendent des gestes concrets, comme l'a redit le président Hassan Rouhani, qui se dit prêt à négocier si des sanctions sont levées. Dans le cas contraire, un diplomate iranien nous a confié que le niveau d'enrichissement de l'uranium pourrait alors grimper à 20% dans les prochains mois, seuil critique qui donnerait à Téhéran la possibilité d'aller vers la bombe atomique.
À Hong Kong, les manifestations plutôt pacifiques jusque-là ont pris un tour violent hier. Des heurts ont éclaté entre policiers et manifestants, manifestants qui protestent donc toujours pour dénoncer l'influence chinoise sur Hong Kong. Les contestataires ont jeté des projectiles sur les forces de l'ordre qui ont répliqué. Des dizaines de milliers de personnes s'étaient rassemblées peu avant à Sha Tin, une ville située près de la frontière entre Hong Kong et la Chine. Les manifestants protestaient contre ces commerçants chinois qui traversent la frontière pour acheter des produits détaxés qu'ils revendent ensuite du côté chinois, ce qui alimente l'inflation côté hongkongais. C'était il y a 3 ans, la Turquie échappait à un coup d'État et Recep Tayyip Erdogan passait tout près du renversement. Les autorités turques avaient mis quelques heures ce jour-là à écraser le soulèvement avant de mener d'immenses purges dans les institutions turques, armées, administration, éducation, entre autres. Une répression dirigée principalement contre le réseau du prédicateur Fethullah Gülen, des purges qui 3 ans plus tard sont toujours en cours. Les précisions à Istanbul d'Anandlower.
Les autorités turques livrent régulièrement un bilan mis à jour des arrestations en lien avec le coup d'État manqué. Non seulement parce que le président Recep Tayyip Erdogan veut montrer aux Turcs qu'il lutte efficacement contre les auteurs du putsch et tout leur soutien présumé, mais aussi parce que ces chiffres, qui ne cessent d'augmenter, entretiennent le sentiment que la menace est toujours là et justifie la répression tous azimuts des opposants. Selon le dernier bilan, donc, ces 3 dernières années, plus de 510 000 personnes ont été placées en garde à vue et parmi elles, près de 31 000 ont été incarcérées. Il s'agit de Turcs accusés d'appartenir au réseau de Fethullah Gülen, ce prédicateur installé aux États-Unis accusé d'avoir commandité le putsch. La justice a ouvert pas moins de 100 000 enquêtes qui ont mené à 289 procès en lien avec le coup d'État. Presque tous ont déjà abouti et pour 2/3 des accusés par une sentence à perpétuité. À ces peines judiciaires s'ajoutent les limogeages massifs. Près de 130 000 fonctionnaires ont été licenciés, la plupart pendant l'état d'urgence qui a duré 2 ans. Ensuite, les limogeages ont ralenti, mais ils n'ont pas cessé. Plus de 2 000 soldats ont ainsi été renvoyés de l'armée depuis juillet 2018. Le parquet d'Istanbul, qui coordonne la plupart des enquêtes, a estimé récemment que le nombre de militaires liés à l'imam Gülen qui n'ont pas encore été arrêtés dépassait celui des soldats qui ont participé au putsch. La Turquie est donc loin d'en avoir fini avec les purges.
Anne Andlower, entre blocus israélien et tensions politiques internes, un autre enjeu mobilise aussi dans la bande de Gaza, la gestion des déchets. Il faut dire que les décharges y sont saturées, que l'environnement y est donc menacé et que cela concerne 900 000 personnes. Aujourd'hui, à Gaza, un important centre d'enfouissement des déchets va être mis en service, le centre de Foukari qui va d'un seul coup faire passer la bande de Gaza aux normes internationales. Une avancée en grande partie permise par la France. Le reportage sur place d'Étienne Monin.
Adam El Najjar est le premier témoin de cette petite révolution. C'est un ancien chiffonnier. Quand la décharge a fermé, l'ONU lui a proposé une reconversion. Il est aujourd'hui commerçant et il revient pour la première fois.
J'ai travaillé pendant presque 17 ans ici. Je récupérais la ferraille, le plomb, le plastique, tout ce qui était récupérable. Je suis content de revenir parce que ça fait longtemps que je voulais, mais c'était interdit.
Derrière le jeune homme, on voit le relief de l'ancienne décharge et un énorme cratère qui devient à partir d'aujourd'hui le centre d'enfouissement. Il est grand comme 12 terrains de football. Il va recevoir les déchets de presque la moitié de la bande de Gaza. C'est un bond en avant, dit Ali Baroum qui pilote la structure intercommunale.
La situation a complètement changé. Elle est passée de 0 à 360 degrés. Ça veut dire que le service ne peut pas être plus efficace et plus rentable.
Dans Gaza, la collecte est artisanale et les déchets charges sont saturées. C'est une menace importante pour l'environnement, estime Ahmed Ilis, spécialiste de l'environnement.
Ces écoulements qui ne sont pas traités s'échappent de la décharge parce que les déchets débordent des sites. Ça va directement dans le sol, qui est une zone agricole. Cela pollue le sol et cela va ensuite directement dans la nappe phréatique.
Le projet a été amorcé il y a 7 ans. Il a dû passer une série d'obstacles. Gaza est soumise au blocus israélien. Nicolas Gury est numéro 2 de l'Agence française de développement à Jérusalem, principal financeur avec la Banque mondiale.
D'abord, il a fallu attendre le permis israélien pour construire cette infrastructure qui est arrivée en 2012. Ensuite, il a fallu d'abord faire un design du projet qui puisse correspondre aussi aux exigences des autorités israéliennes puisqu'elles ne voulaient pas que l'édifice de déchets dépasse les 20 mètres. Et du coup, il a fallu creuser un trou énorme de plus de 1,5 million de mètres cubes pour pouvoir justement permettre aux populations de Gaza de stocker leurs déchets pendant une dizaine d'années.
Le projet a aussi neutralisé les querelles politiques locales. Il a coûté autour de 20 millions d'euros. Il comprend un programme d'éducation.
Étienne Monin. Le temps de ce lundi, attention aux orages sur le sud-est et en Corse où Météo France a placé le département de Haute-Corse en vigilance orange. Ailleurs, le temps sera largement ensoleillé. Les températures comptées ce matin de 9 à 22 degrés, de 20 à 33 cet après-midi du nord au sud.